Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Le décryptage de la vie politique française, c'est maintenant dans Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplin.
Et c'est avec vous, Philippe Moreau-Chevrolet. Bonsoir.
Bonsoir, Philippe.
Professeur de communication politique à Sciences Po, président de MCBG Conseil. Une semaine après le second tour des élections législatives, il y a beaucoup à dire. Dimanche dernier, et c'était à vivre ici même en direct sur RFI lors de la soirée électorale, les équilibres politiques ont bien changé et ce à plus d'un titre. Le président de la République a perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale, le RN a obtenu un score historique, l'Union de la gauche est la deuxième force politique du pays, les Républicains en recul sauvent les meubles en étant incontournables pour le gouvernement s'il veut faire adopter des lois. Alors Philippe Moreau-Chevrolet, ce scrutin a été tout sauf une formalité comme l'a presque été l'élection présidentielle.
Non, c'est pas une formalité. L'élection présidentielle n'en était pas une non plus, mais le président a été beaucoup aidé par l'actualité, c'est-à-dire par la guerre en Ukraine, par beaucoup de choses qui ont justifié qu'il ne fasse pas campagne. Là, pour les législatives, il n'y avait plus vraiment de justification, ce qui fait que les gens se sont rendus compte qu'il n'était tout simplement pas présent, qu'on n'avait pas non plus vraiment de grain à moudre, de programme, de clivage, à part la question des retraites, de la retraite à 65 ans, mais sur lequel lui-même avait rétro-pédalé. Donc ce vide est apparu, et là, les gens se sont dit, mais on ne peut pas redonner les clés du camion en ne sachant pas où on va. Donc ils ont récupéré quelque chose, une forme de décision. Ils sont allés choisir les plus clairs du paysage politique. Les plus clairs sont les extrêmes.
Et donc pour la première fois depuis 5 ans, pour ce deuxième quinquennat, Emmanuel Macron, pour une fois, n'a pas les mains libres.
Non, il n'a pas les mains libres. Alors, en réalité, il ne les a jamais vraiment eues. C'est-à-dire qu'il a toujours dû composer, malgré tout, avec une majorité qui, à l'époque, venait quand même largement du Parti Socialiste. Donc, il ne pouvait pas non plus complètement faire ce qu'il voulait. Là, simplement, il a deux types d'opposition, en quelque sorte. Il a une opposition externe, LFI, le RN, et puis la droite LR qui est très contre lui. Mais il a aussi une opposition, en quelque sorte, interne, puisqu'il va falloir, comme on lui a rappelé aujourd'hui par la voix de François Bayrou, composer avec le Modem et avec Horizon.
Alors, pile une semaine plus tard, après ces législatives, après avoir pris le temps d'une longue réflexion, le président de la République s'est exprimé pour dire comment il voit désormais les choses. Et il l'a fait aujourd'hui, tout à l'heure, depuis le G7, qui se tient donc en Allemagne, au château d'Elmau. Avant le début du sommet, Emmanuel Macron a rencontré la presse, dont RFI, et donc il était devant vous, Anthony Lattier. Le président entend bien tenir le cap, hein.
Emmanuel Macron a fait passer un message au cours de cet entretien. Il est là pour 5 ans. Un président élu au suffrage universel ne dépend pas d'une majorité. C'est donc son projet, son programme qui doivent être au centre des négociations. Pas question de dévier de cap qu'il entend réaffirmer dans les prochaines semaines. Mais Emmanuel Macron concède aussi qu'il lui faudra bien faire des compromis, passer des accords avec certaines forces politiques. Alors lesquels? Eh bien, les partis de gouvernement, à savoir selon lui les Républicains, les Socialistes, les Écologistes, les Communistes, mais pas le Rassemblement National et pas la France Insoumise. Le chef de l'État se justifie. Il dit que certains responsables de LFI sont républicains et d'autres non, que ceux-là ont des ambiguïtés qu'ils doivent régler. Emmanuel Macron précise qu'il ne met pas de signe égal entre le RN et LFI. Pour le moment, aucune force politique n'est prête à passer de pacte de gouvernement avec Emmanuel Macron, mais le chef de l'État se montre optimiste. L'absence de majorité absolue responsabilise, d'après lui, l'ensemble de la classe politique. Anthony Lattier, au château d'Elmau, RFI.
On va donc écouter les réactions à ce que dit le président de la République, Philippe Moreau-Chevrolet. Avant cela, il faut constater qu'Emmanuel Macron va donc être obligé de composer avec des oppositions d'humeur variable selon les projets de réforme qui seront sur la table, la retraite, la transition écologique, le pouvoir d'achat.
Oui, et on sent que ça va être compliqué parce que sur la question de l'avortement, dont on parlera peut-être plus tard,
bien sûr.
Ils ont tenté par la voix d'Aurore Berger d'essayer de rallier derrière eux une partie de la classe politique et on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Le président est perçu comme faible dans le jeu politique, voire quelque part en dehors du jeu en ce moment. Donc les recompositions se font sans lui et même assez ouvertement contre lui. Donc c'est toute la difficulté de l'exercice. Moi personnellement, dans ce qu'a dit votre correspondant, je ne doute pas que votre correspondant soit claire. Mais moi, je ne comprends pas du tout ce que raconte Emmanuel Macron. Un président ne dépend pas d'une majorité. Si, justement, c'est bien ça le problème. Il dépend d'une majorité. Est-ce qu'il ne met pas un signe égal entre RN et LFI ? Il en met un de signe égal puisqu'il dit qu'il ne composera ni avec le RN ni avec LFI. Ça veut bien dire que dans son esprit, c'est inacceptable dans les deux cas. Donc le problème pour Emmanuel Macron, c'est qu'il n'est pas audible pour l'instant parce qu'il n'a pas de discours clair.
Maître des horloges depuis son élection surprise il y a 5 ans, Emmanuel Macron semble perdre son image d'invincibilité. Il avait renversé alors la table. Il se retrouve maintenant à devoir gérer son quinquennat comme le faisait finalement l'ancien monde, avec des calculs politiques, sans avoir les mains libres. Ça veut dire que c'en est fini de la posture, de l'image du fameux Jupiter.
Alors là, Philippe, vous touchez vraiment du doigt le point central. Ce qui est pour moi le vrai problème d'Emmanuel Macron, c'en est fini avec l'infaillibilité du chef. Il n'y a pas grand-chose qui réunissait au fond LREM et qui permettait au mouvement présidentiel de tenir debout. Mais il y a une chose qui était centrale, c'était l'infaillibilité d'Emmanuel Macron. Son charisme, mais aussi sa vision stratégique. Pour la première fois, il est en échec, dans un échec qui le concerne lui. C'est-à-dire que l'échec aux élections partielles, aux élections régionales, etc., ce n'était pas forcément très grave, ni perçu comme grave. Là, on est dans un échec national qui tient des erreurs stratégiques faites pendant la campagne, comme l'erreur sur les 65 ans pour la retraite, comme beaucoup d'autres erreurs qui ont été très coûteuses au final. Avoir diabolisé, par exemple, la NUP pendant les élections législatives n'a pas permis les reports de voix de la NUP vers des candidats ensemble, face au RN par exemple. Et ça, déjà en soi, ça a probablement coûté une cinquantaine de sièges à la majorité.
Emmanuel Macron contraint donc, avec ce résultat des élections législatives, de devoir infléchir sa manière de gouverner. Clément Beaune, qui est le ministre de l'Europe, faisait ce matin le service après-vente sur France 3 en expliquant ceci.
Gouvernement d'action, ça veut dire que pour agir, il faut élargir. On a 40% des députés, c'est beaucoup, mais ce n'est pas 50%. Pour l'action, il faut travailler avec d'autres forces politiques. Et donc, je pense, mais à eux de voir s'ils s'en sont d'accord, qu'il y a des gens de bonne volonté dans des partis de gauche et dans des partis de droite républicaine avec lesquels on peut travailler. Il y a un point commun entre la France insoumise et le Rassemblement national, c'est ce qu'a dit le président, c'est que ce ne sont pas des partis de gouvernement. Ces partis de gouvernement, c'est des partis qui acceptent le compromis, la responsabilité, la confrontation au réel, que parfois son programme n'est pas mis en œuvre intégralement. C'est ça une démocratie parlementaire. Nous l'acceptons, je crois que les socialistes et les écologistes peuvent l'accepter, je crois que certains membres des Républicains peuvent l'accepter. Mais je fais une différence entre la France insoumise et le Rassemblement national. Je crois qu'ils n'ont pas le même rapport à la société, à la haine, à la division.
Pourtant, membre de la majorité présidentielle, François Bayrou, lui, président du Modem, ne croit pas que la politique de la main tendue par Emmanuel Macron aboutisse.
Je pense que ça n'est pas possible, l'Union nationale. Je ne vois pas des forces politiques élues dans l'opposition entrer dans la majorité, parce qu'ils auraient le sentiment de se renier, d'avoir menti à leurs électeurs. Je pense que le président de la République n'a pas du tout l'idée que les coalitions vont devenir possibles. Peut-être le sens de la persuasion va faire bouger les choses. Je dis que je n'y crois pas. Je crois à un gouvernement des bonnes volontés et je crois aux majorités d'idées.
En tout cas, il n'est pas question de gouvernement d'union nationale, mais d'une ouverture allant du PC à LR, mais sans donc le RN et LFI. Alors qu'en pensent les intéressés ? Du côté de la France insoumise, ça tombe bien que le président de la République ne veuille pas composer avec elle parce que la réciproque est vraie. Écoutez Adrien Quintenin sur France Inter.
Cela n'aurait aucun sens et participerait finalement des combines dont nous ne voulons pas. Donc nous lui avons dit, il n'y a pas d'arrangement possible, nous avons un mandat, il est clair, celui d'être dans l'opposition. Et en démocratie, ça a du sens, c'est important, il faut chérir ça.
Et puis au grand jury RTL, le député François Ruffin n'a pas dit autre chose, même si cela était dans des termes différents.
Moi, j'ai aucune intention de participer à un gouvernement avec Emmanuel Macron, à moins que ce soit un gouvernement de cohabitation avec nous qui avons la majorité très claire à gauche. Donc il répond à une question qui n'est pas posée. Ils ont une manière de rétrécir la République en permanence. C'est eux qui la rétrécissent. Ah non, vous n'êtes pas dans le champ de la République. Mais qu'est-ce qui va rester à la fin ? En fait, qui n'est pas d'accord avec Emmanuel Macron, à la fin, ne sera plus dans le champ de la République. Je ne vois pas où sont les ambiguïtés sur le terrain de la laïcité dans le discours de la France insoumise. Vous savez, il nous a fait le blabla du grand débat, il nous a fait la convention citoyenne, il nous fait des conventions quand il y a le Covid. J'ai l'impression, moi, d'avoir avec Emmanuel Macron un chef de rayon chez Carrefour, quoi. Il nous offre des primes, des petits bons, on a le droit à tout ça. Mais non, ce n'est pas des mesures dans la durée.
Adrien Quintenès de LFI qui appartient à la NUP, cette union de la gauche qui abrite aussi les écologistes, les socialistes et les communistes. Les communistes que le président a nommément sollicités. La réaction de Fabien Roussel, le patron du PCF.
Nous n'avons jamais refusé de participer à un gouvernement par principe, y compris en 1945. Nous étions dans un gouvernement d'union nationale avec le général de Gaulle pour reconstruire la France. Et ça, je l'ai dit au président de la République. Tout dépend du projet. C'est à notre tour de sonder le gouvernement. Est-ce que le gouvernement est prêt à soutenir les propositions que nous allons faire de baisse des taxes sur l'essence, de taxation des dividendes des super compagnies pétrolières et d'augmentation du point d'indice des fonctionnaires et d'augmentation de l'ensemble des salaires dans le secteur privé? C'est lui aussi qui est au pied du mur en ce début de quinquennat.
Philippe Moreau, Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po. On l'entend, l'offre de service, la proposition faite par le président de la République fait flop. Reste LR, les Républicains, qu'on n'a pas entendu d'ailleurs aujourd'hui.
Alors les LR ne sont pas du tout dans une optique de coopération, ils sont même plutôt contre. Ils expliquent deux choses. D'abord, un, ils ont nommé quelqu'un à leur tête du groupe parlementaire LR qui est très anti-Macron, hein, qui est quelqu'un qui est vraiment très dur. Et puis ensuite, la deuxième raison, c'est qu'ils perdraient leurs derniers électeurs. Ils pèsent plus grand-chose, LR1, hein, aujourd'hui. S'ils se rallient à LREM, véritablement, ça n'a aucun intérêt politique pour eux, parce qu'ils perdraient le peu qui leur reste. Donc tout le monde est un peu coincé dans sa logique et dans son couloir. Tout le monde est coincé. Peut-être que certains aimeraient collaborer avec Emmanuel Macron, probablement même. Mais la capacité politique de le faire, la marge politique de le faire, n'existe pour personne.
Cela dit, Emmanuel Macron a besoin de 44 voix à l'Assemblée nationale pour être majoritaire. Et il n'y a que du côté de LR qui a une cinquantaine de députés qui pourraient les lui apporter.
Oui, c'est vrai. Mathématiquement, tout ça est vrai. Le problème, c'est que la politique, c'est pas que de l'arithmétique. Le souci, c'est que s'il fait ça par ailleurs, il clarifie sa position. Il dit « je suis de droite ». Tout le travail d'Emmanuel Macron depuis 5 ans, c'est qu'on ne sache pas où il est, parce que ça l'arrange. Il est plus fort comme ça. Là, ça leur reviendrait à donner une identité politique à son mouvement, ce qu'il a toujours refusé de faire. Je ne pense pas du tout qu'il soit prêt à abdiquer de sa liberté, qui est peut-être plus importante que le reste.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplain.
Et maintenant, dans l'immédiat, la question du remaniement. Le suspense n'avait pas véritablement été levé ces derniers jours. Maintenant, c'est sûr, Elisabeth Borne reste à son poste de Première ministre. Emmanuel Macron l'a annoncé. Même si elle a une expérience politique certaine, elle souffre d'un déficit d'image. Pour redresser la Macronie, vous êtes un spécialiste de communication politique, Philippe.
Oui, elle a un déficit d'image qui tient à deux choses. D'abord, c'est quelqu'un qui est très techno, qui aime bien rester dans l'ombre. Elle n'aime pas communiquer, donc ça, c'est un petit peu son côté Jospin. Il faudrait qu'elle fende l'armure. Et puis l'autre raison qui fait qu'elle a du mal à exister aussi, c'est que le président ne lui laisse pas beaucoup de place. Elle n'a pas vraiment de rôle politique. Elle pourrait après tout se révéler en leader politique. Elle n'en a pas du tout la possibilité. Le président a été très clair, c'est lui qui va gérer la crise parlementaire. Et puis par ailleurs, elle n'a pas non plus d'espace au sein des médias pour dire quoi, pour exister en tant que personne. Il faudrait qu'elle ait une histoire à raconter. Elle n'en a pas ou elle ne veut pas la raconter, ce qui est complètement respectable. Mais du coup, on n'a pas de moyen vraiment d'appréhender qui elle est, ce qu'elle veut faire. On a le sentiment que même si elle veut faire des choses, elle n'en a pas les moyens politiques. C'est très vous savez, c'est pour elle. Moi, j'ai vraiment de l'empathie pour elle parce qu'elle se retrouve dans la pire des situations.
Cela dit, pour la première fois en France, une femme est la deuxième fois, une femme est Premier ministre. Et pour la première fois, une femme devrait accéder au perchoir, c'est-à-dire à la présidence de l'Assemblée nationale. Ça fait aussi partie de la désignation. Il y a une dimension de communication politique dans tout cela.
Oui, bien sûr. C'est tout le problème d'ailleurs avec Elisabeth Borne. C'est que même si le président voulait s'en séparer, même s'il avait l'idée de prendre quelqu'un d'ultra-politique, Bayrou frappe à la porte. Admettons qu'il prenne François Bayrou, ce serait non seulement humiliant pour Elisabeth Borne, mais ça montrerait qu'une femme ne peut pas être Premier ministre en France. Ce serait un échec colossal. Rappelez-vous de ce qui était arrivé à Edith Cresson, qui avait tenu une année. On avait dit que c'était très court. Donc il est un peu coincé avec elle. Et oui, c'est une affaire d'image. Alors après, pour Yaël Braun-Pivet, c'est différent. Elle avait été candidate déjà la dernière fois au perchoir. Elle s'était inclinée à l'époque devant Richard Ferrand parce que Richard Ferrand était l'homme fort de la Macronie.
En tout cas, le coup d'envoi de ce changement ministériel a été lancé aujourd'hui formellement, même si cela est discrètement, puisque Yaël Braun-Pivet est donc sortie du gouvernement selon un décret publié dimanche au Journal officiel. Et c'est donc elle qui brigue la présidence de l'Assemblée nationale. Et ce sera mardi après-demain. Autre chose, ce qui se passe aux États-Unis avec la Cour suprême qui remet en cause l'intangibilité du droit à l'avortement suscite de très nombreuses réactions dans le monde et en France. La majorité présidentielle se saisit du sujet. Le groupe Renaissance à l'Assemblée nationale déposera une proposition de loi constitutionnelle visant à sanctuariser le droit à l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. partie prenante de cette majorité présidentielle, le MoDem, fait entendre sa différence aujourd'hui. François Bayrou, sur BFM, pardon, à la mi-journée.
Est-ce qu'aujourd'hui, franchement, dans l'état où le pays se trouve, avec toutes les questions que nous avons devant nous, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est utile de faire ça, alors même que, à ma connaissance, aucun courant politique ne remet en cause la loi Veil et ce qu'elle est devenue par les évolutions différentes. Ce qui se passe aux États-Unis, qui, comme si on appuyait sur un bouton, entraîne un certain nombre de réactions effervescentes dans la vie politique française. Moi, je ne suis pas dépendant des États-Unis.
Et puis, Aurore Berger pointe chez les nouveaux députés RN des opposants farouches à l'accès des femmes à l'IVG. Leur présidente, Marine Le Pen, affirme sur Twitter que le RN n'a jamais attenté au droit des femmes à recourir à l'IVG. Cette question, donc, devient un sujet de querelle politique, même si, dans le fond, tout le monde est d'accord. Philippe Moreau-Chevrolet, en voulant donner un gage de bonne volonté sur ce sujet qui fait consensus, la majorité, est-ce qu'elle ne s'est pas prise les pieds dans le tapis?
Elle a surestimé ses forces, la majorité, parce qu'elle pensait pouvoir, au fond, faire comme d'habitude, c'est-à-dire on va proposer quelque chose de consensuel. C'est souvent une manière qu'a Emmanuel Macron de se tirer des problèmes. On remonte d'un cran, on propose quelque chose comme le grand débat très consensuel et on aplanit les difficultés et on s'en sort. La méthode ne marche pas là parce que personne n'a intérêt à suivre et François Bayrou a juste rappelé qu'il n'était plus tenu dans la majorité. Maintenant, il est libre parce que si lui part, il n'y a vraiment plus personne.
Et puis une semaine après la recomposition de l'Assemblée nationale, intéressons-nous à un grand perdant alors qu'il y a quelques mois, il était avec son parti Reconquête sur un petit nuage. Éric Zemmour espérait se refaire après sa défaite à la présidentielle. Et au lieu de cela, il a encaissé un deuxième échec aux législatives. Pire, sa formation n'obtient aucun siège à l'Assemblée. Julien Chavannes, il avait fait du grand remplacement son cheval de bataille, mais c'est lui que les électeurs ont grandement remplacé par d'autres.
Oui, aucun député des troupes démotivé, pas de scrutin national avant 2026, alors comment tenir, ne pas disparaître? En politique, on appelle ça gérer une traversée du désert, comment remonter la pente pour un comeback victorieux? C'est la question qui hante Éric Zemmour, son aventure présidentielle a fini avec 7% des voix, bien en dessous de ses espérances. Son parachutage dans le Var pour les législatives a été un fiasco. Il a été éliminé dès le premier tour. Et puis, cerise sur le gâteau, le grand rival du Rassemblement national fait une entrée massive à l'Assemblée. Alors oui, au luxueux QG de Reconquête, c'est la soupe à la grimace.
Et au règlement de compte.
Et signe de ces tensions, le journal Le Parisien rapporte une engueulade en bonne et due forme entre Éric Zemmour et l'ex-figure des Gilets jaunes, Jacqueline Mourot. Des échanges houleux sur la stratégie de campagne, sur l'absence de messages envoyés aux classes populaires. Au QG, on démine la passe d'armes en parlant de discussions franches. Il ne s'était pas vu depuis la défaite, explique une membre de l'équipe. Autre sujet de brouille, les finances. Reconquête et ses trois partis alliés doivent se partager l'argent récolté aux législatives. Plus d'1,5 million de dotations publiques. L'an prochain, les négociations continuent. Chacun à ses intérêts, confesse une participante.
Julien Chavannes, est-ce qu'on sait ce que va faire Éric Zemmour dans les prochains mois?
Eh bien, ce qu'il adore faire et ce qui a fait son succès à la télévision, commenter l'actualité. Éric Zemmour va débuter en septembre une série de conférences et lancer une revue. Son parti organisera sa rentrée dans le Var au même moment. Mais après, mystère, le jeune parti d'Éric Zemmour est à un moment charnière, résumé par une des cadres du mouvement. Comment vit-on 5 ans dans l'opposition? Reconquête, c'est vrai, n'a personne à l'Assemblée, mais il peut s'appuyer sur 4 députés européens, 2 sénateurs et une trentaine d'élus locaux. Et puis il y a aussi ces jeunes militants, véritable armée de terrain qui a œuvré pendant la campagne. Les 2 années avant les européennes où Reconquête espère se relancer s'annoncent longues.
Philippe Moreau-Chevrolet, Éric Zemmour, star des plateaux télé, des salons du livre, n'a-t-il finalement été qu'une bulle médiatique?
Alors oui, oui, ça a été une bulle médiatique. Il a vraiment ouvert la campagne électorale. C'est lui qui a fait tout le lancement. Il a lancé quelque part Marine Le Pen aussi, puisqu'il lui a permis d'être plus au centre, exactement de là où elle souhaitait être. Il a été utile un peu à tout le monde. J'ai envie de dire, ça a été un peu l'idiot utile de l'élection. Pourquoi idiot utile? C'est parce qu'il a été utile à tout le monde, sauf à lui-même. Il a été, au fond, un peu en autopilote. Il n'a pas vraiment su écouter les autres, ni écouter ses troupes. Donc voilà, c'est pour lui, il a le même sort que Maigret, beaucoup d'autres qui se sont attaqués à Le Pen, ils ne sont pas assez forts pour elle.
Merci pour vos analyses et commentaires, Philippe Moreau-Chevrolet. Philippe Moreau-Chevrolet, président de MCBG Conseil. C'était Dimanche Politique sur Radio France Internationale. Le débat a